Vous écoutez
RMC. RMC. After Foot. Intégrale Coupe du Monde. Intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brivois.
Et oui, l'after continue jusqu'à 1h du matin ici en direct du Qatar avec Daniel Riolo qui est là. Daniel, bonsoir. Avec Lionel Charbonnier qui est là également. Salut Lionel.
Bonsoir à tous.
On va refaire un bonsoir, je crois qu'on t'a pas entendu. Bonsoir Daniel.
Ah, on m'a pas entendu.
Ça y est, là, c'est bon.
Mais bonsoir les amis, voyons. Ah, c'est bizarre.
C'est plus rapide que les micros.
C'est ça. Là, on peut pas dire que c'est de ma faute. Il y a pas de bouton là. On est pas comme à la maison, comme en studio à Paris.
Tu t'es fait censurer, Daniel. Ça commence.
C'est possible.
Messieurs, là, il est 22h04 à Orgeval, minuit 4 à Doha. Je vous dis ça parce que Nicolas Villas est dans les parages. Ah. Nico, bonsoir.
Oh, la vive. Je suis pour Orgeval, enfin, à cette heure-là, j'ai vu le match à Paris. Au boulot.
Ah, d'accord.
À la rédac.
Très bien, très bien.
Non, on était sur Twitch d'ailleurs avec les gars de Twitch, avec Thibaut, avec Sacha et Lému.
Ah bah, très bien, bah, excellente idée. Parce que des fois je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils montent juste notre studio avec juste moi qui fais rien?
Vous faites pas rien, vous bossez, vous parlez, les gens.
Oui, mais enfin bon, tu vois, c'est un peu statique, tu vois. Comme,
ouais, mais c'est le principe, faut s'y faire, mais en fait ils commentent du commentaire. C'est curieux, enfin ça peut paraître curieux, mais apparemment les nouvelles générations adorent ça.
Très bien, et eh ben écoute, on est là pour eux. L'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas, jusqu'à 1h tout à l'heure, la libre antenne de minuit à 1h comme tous les soirs de la Coupe du Monde. On aura des invités tout à l'heure, des supporters de l'équipe de France comme d'habitude. Amine et Arthur seront parmi nous tout à l'heure pour parler entre autres de Benzema et des infos du jour. On analyse également les matchs de cette journée de lundi avec Hamza Rahmani tout à l'heure. On aura une spécialiste du Ghana avec nous également d'ici minuit, et puis le Brésil est au programme, tout comme la Suisse tout à l'heure avec vous au 32-16. Et puis le 32-16, et puis le hashtag RMC Live, et puis Direct Studio disponible pour vous pour débriefer la rencontre, enfin les matchs du jour avec nous, parler de l'actu de la Coupe du Monde. N'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire, faites-le dès maintenant. Bon, démarrons par la victoire du Portugal face à l'Uruguay avant que Nico nous donne son point de vue. Daniel, Lionel, est-ce que vous avez vu un Portugal qui vous a séduit?
Alors moi déjà, je vais inscrire ce match dans un contexte plus global. Je crois que c'est la plus belle journée depuis le début de la Coupe du Monde.
Ah, en termes de
rencontre, en journée. Non, en journée complète. Ouais. Ça a commencé avec un Cameroun-Serbie dont on n'attendait pas énormément et on a vu un très bon match.
On n'a pas vu du grand football, mais on a
dans le dénouement, match, ouais, c'est génial.
Oui, mais attention aussi, la Coupe du Monde, c'est ça aussi. C'est parfois pas des matchs d'un très haut niveau tactique ou technique, mais il y a de l'émotion, des renversements de situation et c'est très agréable parce que souvent tu regardes des matchs où tu n'es pas tellement impliqué émotionnellement et tu y vas juste pour voir un spectacle et là tu vois du spectacle. Le Ghana-Corée, c'est la même, tu t'attendais vraiment pas à voir un bon match. Celui-ci a été vraiment intéressant et puis on a continué. Le Brésil, c'est un des clients sérieux de cette Coupe du Monde, donc on a toujours envie de voir et on a vu une deuxième équipe qui a enchaîné deux victoires de suite après la France et la troisième a enchaîné derrière puisque le Portugal a fait la même chose. Et pour en revenir à ta question initiale, oui, ce Portugal m'a plu. Oui, ce Portugal, parce qu'en plus, il avait un adversaire qui est toujours coriace, toujours difficile à manœuvrer, qui a toujours une base défensive, même si c'est vieillissant, même si c'est plus aussi fort qu'il y a quelques années. Mais la victoire des Portugais, je l'ai trouvée propre. Elle aurait même pu être plus importante avec un peu plus d'efficacité. Mais ça, c'est toujours le problème du Portugal, c'est que tu sais jamais... est-ce que Léao est plus efficace que João Félix? Est-ce que un tel devrait rentrer à la place d'un tel? Tu sais jamais quelle cartouche utiliser. C'est comme si t'avais plein d'armes, plein de fusils sur la table. Tu sais jamais lequel prendre pour faire mouche, quoi. Et j'ai l'impression que cette confusion-là, elle règne aussi quand ils sont sur le terrain.
Pour ajouter à ton image, c'est un peu comme une roulette russe, c'est-à-dire que des fois tu vas tirer, mais ça fait balle à blanc. C'est-à-dire que tu peux utiliser la balle Léao, puis le Mbappé portugais. Finalement,
oh, franchement, je préférerais mon image à moi, si tu permets.
D'accord.
Ouais, plus que roulette russe, là, tu vois. Ouais.
Bon, ok. Ouais.
Non, voilà.
Lionel, d'accord avec Daniel?
Oui. Pour la journée, déjà, absolument d'accord. Ensuite, pour le Portugal, moi, j'étais un petit peu, enfin, un peu non, plus qu'un peu déçu de la prestation du Portugal, tout simplement de la première mi-temps, parce que je trouvais que face à un bloc qui était quand même difficile, Daniel a raison, difficile à bouger, tout ça, j'ai trouvé ces Portugais apathiques, il n'y avait pas de vitesse, il n'y avait pas de, ils faisaient rien, tu vois, les ballons étaient trop arrêtés, les courses, il n'y en avait pas beaucoup, ils ne se trouvaient pas en mouvement, il y a eu deux actions dangereuses, et notamment la première, c'est sur une relance de Pépé tout de suite dans l'axe comme ça qui va trouver Joao Félix, je crois, et je crois que ça a été la seule occasion véritablement dangereuse pour les Portugais en première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, je reste persuadé que Fernando Santos les a secoués un peu, leur a dit de mettre du rythme, de faire vivre ce ballon, de trouver des joueurs lancés, parce que dès le début de la deuxième mi-temps, on a vu un autre Portugal, et comme par hasard, ils ont été récompensés. Et ben voilà, pour moi, à deux visages, ce Portugal a deux visages, mais j'ai préféré ce Portugal en deuxième mi-temps, parce que c'était pas facile, ils sont pas faciles à jouer, les Uruguayens. Ils ont truqué, ils ont mis des coups, et ils sont pas énervés, parce qu'ils en ont pris des coups, ils en ont ramassé un paquet, mais jamais, ils sont jamais sortis du match et tout, ils ont gardé la tête froide. Moi, voilà, un match maîtrisé du Portugal.
Ah, c'est un match plein, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions d'un côté et de l'autre. On peut compter 15-20 occasions, des tirs. Il y avait du mouvement. C'était quand même un match très intéressant.
Hein, en deuxième mi-temps, je trouve. En première, oui, non. Oui, alors en première, attention.
Mais je comprends que tu veuilles équilibrer, mais moi je parlais de l'ensemble. Sur l'ensemble, oui, t'as raison. On peut séparer première mi-temps, deuxième mi-temps, si t'as envie de le faire. Mais moi, je suis plus sur une impression générale où j'ai trouvé. Enfin, tu vois, un Portugal-Uruguay, c'est un gros match de Coupe du Monde. Tu vois, c'est comme
trois grosses occasions de l'Uruguay.
La plupart du temps. Dans les Coupes du Monde en phase de poule, c'est un gros contre un petit ou un gros contre un moyen. Là, on peut considérer que ce sont deux grosses équipes de Coupe du Monde. C'est en dessous de l'Espagne-Allemagne d'hier. Mais bon, ça reste quand même deux très belles sélections. Et ça donne un match qui est très intéressant en finale et que le Portugal gagne proprement 2-0.
Nico, est-ce que tu as vu un bon Portugal, toi aussi?
Déjà, faut souligner la chose qui est quand même la plus importante, c'est que le Portugal est déjà qualifié. Ce qui est quand même très rare que le Portugal se qualifie dans un tournoi majeur aussitôt, c'est-à-dire après deux matchs. Ils ont souvent l'habitude de mal commencer. Et d'être toujours au pied du mur et de
s'arracher. C'est presque inquiétant, ça, Nico.
Disons que c'est très inhabituel. C'est vrai que 2016 avait été la
carrière. Ça doit te troubler, ça.
Moi, surtout, je me souviens de 2016 où le règlement change. Les troisièmes passent et ils se qualifient avec trois nuls et ils vont au bout. Donc, effectivement, après, il y a des choses qui m'ont plu. Par exemple, moi, qu'un Bruno Fernandes prenne enfin de l'épaisseur.
On allait y venir. Tu fais bien de le dire.
Il y a ça. Autre joueur qui a fait son retour, ça faisait quasiment deux mois qu'il n'avait pas joué. Il a fait un match incroyable, c'est Pep. Pep qui est devenu ce soir le joueur le plus âgé de l'histoire du Portugal en phase finale de Coupe du Monde. Il y en a beaucoup qui l'ont.
Et t'en as un autre aussi, Diogo Costa. Il est hyper important.
J'arrive. Pour moi, il y en a un autre qui est très important, mais qui brille pas parce qu'il est moins spectaculaire qu'il l'est en club, mais qui pour moi a fait un match énormissime. C'est Bernardo Silva. Il faut qu'on arrête de croire que le Bernardo Silva qui joue en équipe du Portugal, c'est celui qu'on voit à City. C'est pas un joueur qui va être spectaculaire.
Ça, on a remarqué que c'était pas le même. Mais c'est vrai que ça perturbe les yeux parce que il est tellement étincelant avec City dans le collectif huilé que là. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est sûr qu'il fait un gros match.
Il a dit un truc. Il s'est auto-analysé en conf de presse hier. Il a dit une chose. C'est-à-dire, cette critique-là, il lui a été faite. En gros, pourquoi tu brilles pas autant avec le Portugal qu'avec City? Pourquoi t'as pas la même. Et lui, il dit, mais très intelligemment en plus, autocritique, il dit, moi, je suis pas forcément d'accord avec vous. J'ai pas été aussi spectaculaire contre le Ghana que je l'avais été lors du match précédent, l'amical face au Nigeria. Mais moi, je fais ce que le jeu me demande. C'est-à-dire, il est là, il fait des compensations. Il bouge des trous, il court énormément, il a un volume de jeu qui est important. Et surtout, n'oubliez pas un truc, c'est qu'il joue dans ce milieu à 3. C'est pas du tout le même positionnement. Il est quasiment 8. Bernardo, c'est pas le genre de débordement qui va mettre des passes des. Il est là, il compense. Il est quasiment box-to-box, Bernardo. Et moi, aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé spectaculaire, mais je l'ai trouvé incroyable, Bernardo. Et puis, il y a Diogo Costa, qui avait eu cette fameuse bourde. Il a failli en faire une, d'ailleurs, aussi, sur un dégagement. Mais si le Portugal, il y a 0-0 à la mi-temps, les gars. Pour moi, il y a un parallèle entre la première mi-temps contre le Ghana et celle de ce soir. C'est-à-dire qu'ils ont le ballon. Il y a une grosse maîtrise technique. Et puis, il y a les fameux trou d'air qu'avait déploré Fernando Santos qu'on l'a retrouvé, mais les deux plus grosses occasions en première période, elles sont pour Bettencourt. Merci Diogo Costa, c'est lui qui les sauve, les Portugais. Donc il y a quand même des choses positives. Après, moi, en moins positif, bah c'est Santos qui tarde à faire ses remplacements. Pour moi, il est très osé quand il enlève un milieu def et qui fait rentrer Rafael Leão à la place. Il enlève Neves qui est averti. Oui,
alors là, quand il a fait ça, j'ai
Neves, pour moi, il est pas au niveau, mais il a pas.
Non, mais ce changement offensif. Bah, ouais, c'est pour ça. C'est quand il a fait ça, devant la télé, je sais pas, je comprenais pas. Qu'est-ce qui lui arrive?
On lui reproche souvent d'être conservateur, notamment dans ses choix, que ce soit dans ses remplacements.
Quelle surprise quand même.
Ouais, mais par contre, il y a eu un gros déséquilibre derrière. Et la rentrée de Payling, que beaucoup voulaient titulaire parce qu'il a un vrai gros volume de jeu, une grosse présence physique, beaucoup le voulaient titulaire dans ce match-là. Elle a fait du bien, mine de rien. Et puis moi, il y en a un autre.
À place de Carvalho, c'est ça?
Ouais. Et pour moi, il y en a un autre dont il faut qu'on parle, qui s'est attribué un but qui lui a finalement pas été donné, mais c'est Cristiano Ronaldo. Comme face au Ghana, il fait une bonne première période, mais deuxième période, il n'y a pas un truc qu'il a réussi qui a fonctionné. Tout ce qu'il a tenté en deuxième période, alors pour moi, il continue d'accaparer l'attention des adversaires. Mais il y a force est de constater que sur 90 minutes, peut-être parce qu'il a moins de temps de jeu, peut-être parce qu'il se fait vieux, j'en sais rien. Mais le fait est que plus les minutes avancent et moins il est performant, Cristiano Ronaldo.
Ça c'est sûr. Et je maintiens. Je sais pas jusqu'où pourra aller le Portugal et est-ce que ce sera avec lui, sans lui, des matchs entiers, 60 minutes, 70 minutes. J'ai le sentiment que Léo sur un côté, Jean-Félix en pointe, j'ai envie de croire que ce Portugal serait plus performant, mais j'ose pas le dire parce que Cristiano Ronaldo a le profil pour faire taire n'importe qui en mettant un but dans un match coup près qui va faire la diff. Bon, le jeu collectif, si on veut le mettre en avant et si on veut mettre à profit les qualités importante qu'à cette équipe, je suis convaincu que Léo, Jean-Félix et je sais pas qui tu veux mettre avec eux devant, ça aurait vraiment beaucoup d'allure. Vraiment, je suis sûr que techniquement cette équipe serait encore au-dessus.
Après Nico, le hockey, il célèbre le but comme si c'était lui qui l'avait marqué tout ça, mais il est très 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 influent. S'il ne vient pas là, jamais il y a le but. Le gardien la prend tout seul.
Ça c'est un autre raison.
Et même contre le Ghana, il va chercher le penalty, il marque un but.
Bien sûr, il est très influent quand même, comme disait Daniel.
Des minutes, c'est ce que je te dis. Première période, il l'est. Et le fait est qu'en deuxième période,
il prend de l'âge.
Non, mais je suis d'accord.
Le pauvre.
D'ailleurs, il sort, ce qui est pas le cas. Bon, il restait quelques minutes à jouer, mais enfin,
80e.
On se dit bon, pour peut toujours garder un ballon devant. Il a quand même un peu d'expérience, le gars.
Mais après, forcément, c'est rassurant. Moi, je trouve pas que le Portugal. Alors, c'est vrai qu'ils sont un peu chiants parfois avoir joué, mais il y a un truc qu'on peut pas leur enlever.
Non, mais là, il fallait être deux pour être chiant.
Ce soir, ça va plus.
Il y a une vraie maîtrise technique. Moi, je trouve qu'il y a une vraie maîtrise collective. Il y a un truc qui commence quand même à se dégager de cette équipe. Après, Santos avait expliqué après le match contre le Ghana, il y avait certainement aussi la nervosité du premier match en Coupe du Monde. Il a aussi dit un truc que moi j'ai trouvé intéressant et qu'on a commencé à voir un peu plus dans ce match-là. La question lui a été posée parce qu'il a parlé de liberté totale, notamment en phase de possession. Et ça s'est pas forcément vu face au Ghana, c'est-à-dire ils ont beaucoup eu le ballon en première période, mais ils savaient finalement pas trop quoi en faire face à un bloc bas, ce qui a été le cas face à l'Uruguay. Aujourd'hui, on a un peu plus vu ça tout de même. C'est-à-dire on a vu une équipe qui était un peu plus libérée, des joueurs offensifs qui tentaient des choses. Je pense à Bruno Fernandes, à Rafael Leão.
Pas en première mi-temps, Nico.
Non, c'est ce que je te dis.
Parce que première mi-temps, justement, mais c'est un petit peu le revers de la médaille. Quand tu dis liberté, quand tu dis à tes joueurs liberté totale en phase offensive, et ben quelque part les mecs ils sont obligés de regarder et d'improviser. Moi la liberté totale, parce que là, et c'est pour ça que le ballon et les actions étaient souvent arrêtés, c'est-à-dire que t'as pas ces schémas de jeu, ces circuits préférentiels où tu vas les yeux fermés, tu sais que t'as le ballon là, l'autre il part dans le dos, nanana. Et donc en première mi-temps, j'ai trouvé un jeu trop arrêté, trop stéréotypé pour pouvoir faire le tour justement de cette ligne de 5 qui quadrillait bien le terrain là de long, enfin de dans le sens de la largeur surtout. Donc ils ont eu du mal à faire vivre ce ballon. Et en deuxième mi-temps, là ça a complètement changé. Dès que le ballon a vécu, là j'étais content. Mais comme tu disais, pour avoir un match hyper beau, hyper entraînant et tout ça, il faut quand même être deux. Et les Uruguayens, là moi je suis déçu, c'est qu'en première mi-temps ils ont pratiquement rien fait. Bon ok, ils ont fait deux contre-attaques, basta.
Oui, mais ça c'est leur habitude, Lionel. Ça c'est leur habitude, ouais. Les Uruguayens, mais tu vas pas t'attendre à ce qu'ils prennent le jeu à leur compte.
Des fois, ils jouent un peu plus, ils y vont un peu plus dès le départ.
Mais c'est là, pas leur culture, pas dès le départ.
Mais on peut pas en vouloir. Ce que je veux dire, Daniel, c'est qu'on
ils le font jamais, Lionel. Ils le font jamais. Après, quand
on peut pas en vouloir aux Portugais,
ils ont été très entreprenants, beaucoup plus. Ils se sont créés des occasions, ils ont frappé le poteau. Voilà. Donc ils ont cette capacité, mais malheureusement, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas être les premiers. Ils ne veulent pas.
Bah, on va voir ce qu'ils vont faire contre le Ghana.
Eux, ils soient dos au mur contre le Ghana. C'est sûr qu'ils vont y aller parce que de toute façon, ils sont obligés de gagner pour.
On va parler de l'Uruguay dans quelques minutes, mais finissons sur le Portugal. D'abord, Fabrice est là au 32-16. Salut Fabrice.
Bonsoir messieurs.
Fabrice, ah.
Salut Fabrice.
Fabricio.
Fabrice, c'est quoi en portugais? Fabricio. Ça existe en portugais?
Fabricio.
Fabrice.
Ah,
Fabrice, c'est Fabrice, il n'y a pas de problème.
Non, c'est Fabrice.
Pas de problème.
Vas-y, allez. Non,
Lionel, fais pas l'accent portugais, ça passe pas. C'est,
allez, on t'écoute, caralho.
Fabrice, il est content, il va bien dormir parce qu'il a vu un Portugal avec un tout autre visage que le Portugal du Ghana. Une équipe qui a maîtrisé son sujet, qui a bien joué, qui a joué surtout, qui a essayé d'imposer son jeu et qui n'a pas trop subi, si ce n'est, et c'est là ma plus grande crainte, quand on mène au score. Parce que contre le Ghana, on mène 1-0, on recule, on prend un pion, et là on mène 1-0, et puis pareil, Santos, Nico l'a bien dit, notre sélectionneur, il a peur, il est frileux, il tarde à faire des remplacements, et c'est lui qui me fait le plus peur aujourd'hui. C'est pas les joueurs qui sont sur le terrain, parce qu'on a des jeunes extraordinaires. Un 0-0, effectivement, vous l'avez souligné, Diego Costa nous sauve, il tient la baraque. Étant sociaux du FC Porto, j'ai une affection particulière pour le gamin, mais il a que 23 ans, hein, le gardien. Et il le prouve tout au long de la saison, il le prouve encore ce soir.
Hein. D'ailleurs, ça, le choix, parce que
ça,
je me rappelle
c'est
Nico,
la bonne. Le, bah ouais, vas-y. C'est le bon choix de Santos. Hein.
Il y avait eu de l'étonnement de sortir Rui Patricio. Là,
oui, finalement, il le fait au moment des barrages.
Il a prouvé. Finalement, bravo. Il le prouve tous les week-ends en championnat. Et ça fait maintenant plusieurs mois qu'il s'est imposé à la tête de la sélection. Et il l'a prouvé sur les différents matchs qu'il a pu faire en sélection. Alors là, on n'a que en tête sa connerie de fin de match contre le Ghana. Ben, ça arrive, mais c'est sans conséquence, tant mieux. Et aujourd'hui, il montre le talent. Il n'a pas eu un boulot extraordinaire à faire, mais sur les quelques interventions qu'il a eues, il les a fait proprement, il est présent.
C'est d'autant plus dur.
Bien sûr, il faut être concentré sur 88, tu le sais mieux que personne. Enfin, voilà, à 23 ans, masterclass, bravo.
Je suis d'accord.
Rafa Guerreiro, pas facile, parce que Nuno Mendes, il est énorme.
Nuno Mendes, peut-être vous l'avez perdu pour le reste de la compétition.
Je crois que c'est foutu pour lui.
C'est cramé.
Il sort en larmes. Les infos, Nico?
Non, alors pour l'instant, on attend que les infos viennent. Mais bon, il sort en larmes. Ça sent pas bon. Surtout qu'il revenait de blessure. Il était annoncé titulaire dans aucune compo probable. Parce que je crois qu'il a repris l'entraînement hier seulement. Et lui-même devait le savoir. Hein, il sort en larmes.
Je pense qu'ils l'ont relancé trop vite.
Ouais, certainement. Ouais.
C'était un risque à prendre. Ils l'ont pris. Il fait une première mi-temps extraordinaire. Je le regrette. Je suis triste. Et
surtout qu'il faisait un bon match.
Mais quelque part, Guerreiro, il est rentré.
Moi, Guerreiro, il y en a beaucoup.
Mais aujourd'hui, il fait son taf.
Guerreiro, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de supporters du Portugal qui lui sont tombés dessus après le match contre le Ghana, parce que sur l'un des buts, il est mal placé. Mais moi, je trouve qu'les gens sont très sévères avec certains joueurs du Portugal. Je pense à Danilo aussi, parce que le ballon lui passe entre les jambes sur le but. Mais Danilo, il est très important. Je vous rappelle que Danilo, il est blessé aussi pour ce match-là, et que mine de, c'était devenu un joueur aussi très important. Alors, Pep revient en bon moment, il fait son match, pourvu que pour les Portugais, que ça tienne comme ça. Mais il y a certains joueurs comme ça. William Carvalho, par exemple, qui avait fait une bonne rentrée, moi, je trouve, face au Ghana. Dès qu'il était annoncé dans la compo probable, tout le monde lui était tombé dessus avant même qu'il joue. Moi, j'ai pas trouvé qu'il était catastrophique aujourd'hui. Le milieu de terrain a pas été bon, notamment en première période. Mais voilà.
Non, mais là, c'était une victoire collective, Nico, hein, parce que tous les entrants, franchement, ils ont fait le match, ils ont apporté un plus à chaque fois. Non, attention, l'effectif, c'est pas n'importe quoi, l'effectif portugais.
On a une super génération. On a toujours eu, depuis beaucoup d'années, on a souvent.
C'est probablement la plus belle de votre histoire.
Je pense qu'on a une des plus belles générations qu'on ait jamais eu au Portugal. Il y a effectivement cette passation, Ronaldo par Ronaldo. Il sort, c'est bien. Santos le fait sortir parce que je pense qu'effectivement aujourd'hui physiquement il peut pas faire 90 minutes. Plus ça va, plus il sort tôt et puis il rechigne pas. Il sort
et
pas.
Il a rien dit.
Pas.
Voilà, exactement.
Et il encourage. Et quand il est sur le bord du terrain, on retrouve le Ronaldo de sa blessure à l'Euro 2016. Il est là, il encourage, il essaye. Donc c'est bien. Il y a une passation qui se fait. Le petit Gonçalo Ramos qui est rentré, il va prouver. Et cette qualification va nous permettre de lancer d'autres jeunes, je pense, sur le troisième match. J'aimerais voir un Vitinha au milieu de terrain.
Ouais.
Qui a du talent. J'aimerais voir João Mário qui fait une super saison avec le Benfica. C'est des joueurs qui peuvent apporter également. Et c'est bien, c'est une super victoire collective.
Après, ils peuvent pas tous.
Est-ce que tu vas pas les voir au troisième match?
J'espère qu'il va les mettre au troisième match. J'espère qu'il va leur donner du temps de jeu. Et j'espère qu'ils vont faire d'ailleurs un grand match pour aller chercher une troisième victoire et prouver aux sélectionneurs qu'ils ont leur place dans ce groupe et que potentiellement, ils peuvent prétendre à une place en huitième. Parce que quand on mène 1-0 ou qu'on est frileux à 1-1 contre le Ghana et que Santos nous fait sortir des milieux offensifs pour mettre des milieux défensifs, moi j'aime pas. Il est frileux. Alors que
ce soir, c'est l'inverse.
Aujourd'hui, il n'a pas été comme ça.
Un joueur mal qui est capable de prendre le ballon, ils jouent ensemble au milieu de terrain. On a une super équipe, les gars. Prenez le jeu à votre compte. Jouez, faites-nous rêver. On a une super sélection et je suis content.
L'objectif d'ailleurs qui est fixé.
Fois, dans mon souvenir, qu'on se qualifie.
C'est de gagner, qu'est-ce qu'il faut.
Gagner la Coupe du Monde, c'est ça l'objectif.
Il joue un petit peu, c'est ce qu'on disait l'autre jour, mais il joue un peu sur les mots. C'est-à-dire, lui, se considère pas comme un favori parce qu'il est rarement cité parmi les favoris, Fernando Santos. Mais il dit qu'il est candidat et d'ailleurs, il l'a dit en conf de presse avant le Mondial. Il l'a redit là dernièrement, la question lui avait été reposée. Il dit, mais pourquoi nous, on n'aurait pas le droit d'y aller et de prétendre et d'être un candidat à la victoire finale. Si on y va, c'est pour gagner. Donc,
à l'arrivée, t'as trois équipes. De qualifier ce soir, t'as la France, t'as le Brésil et t'as le Portugal. Donc, c'est pas n'importe quoi, t'es dans la cour des grands.
Je pense que tu peux tranquillement ajouter l'Espagne, ça va aller, Lionel.
Non, mais ils sont pas officiellement comme les deux autres, les trois autres.
Si tu n'affiches pas une ambition haute, tu n'y arriveras pas. Sois ambitieux, essaye, tu as la sélection pour, prouve-le, vas-y, défonce-toi. On peut, pourquoi pas. Ils font deux bons matchs, surtout celui-ci. J'ose espérer que le troisième sera dans la continuité de ce que l'on a vu ce soir. J'ose espérer qu'on verra des jeunes qui étaient sur le banc de touche et qui vont montrer que eux aussi ont leur place dans ce groupe portugais et peut-être montrer que pourquoi pas, attention, le Portugal cette année, ils prennent le jeu à leur compte, ils jouent et voilà. On peut le faire, c'est possible.
Merci Fabrice.
Je suis très content de ce que j'ai vu ce soir. Merci à vous les gars.
Ciao Fabrice.
Salut
bonne
Fabrice.
Bonne soirée. Nico, est-ce qu'il y a un joueur qu'on n'a pas cité que tu voulais évoquer
Juste une petite info, c'est que pour le troisième match, donc le Portugal est déjà qualifié, un nul suffira pour terminer premier du groupe, sachant que la Corée du Sud va jouer une finale. En plus, alors ça va être un match dont on va beaucoup parler au Portugal, déjà parce qu'il y avait le souvenir d'il y a 20 ans, la Coupe du Monde en Asie, où le Portugal avait une finale de groupe face à la Corée du Sud. Un nul suffisait aux Portugais pour se qualifier, et finalement ils perdent, ils finissent le match à 9. On avait fait un podcast Joga d'ailleurs là-dessus. Et surtout, c'est une sélection qui est entraînée par Paulo Bento, ancien sélectionneur du Portugal, qui était parti dans des circonstances dramatiques.
Il s'est fait expulser, là, donc il sera peut-être même pas sur le banc.
Ouais, mais c'est quand même lui le sélectionneur. Et puis il était parti en bisbille avec Cristiano Ronaldo à l'époque. Enfin, ça va être un match qui va être quand même assez lourd en émotion. Après, en termes des joueurs, non. Moi, je suis assez d'accord avec Lionel quand il parle de performance collective. Il y a des joueurs qui avaient été un peu en dedans, notamment face au Ghana. Je pense à Cancelo qui a fait son match aujourd'hui. Certains parlaient de William Carvalho, où ils n'avaient pas aimé non plus, de Diogo Costa et même de Cristiano Ronaldo. Voilà. Juste pour finir sur Ronaldo, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a des messages qui tombent sur le direct studio. La joie. Le Ronaldo, c'est comme tu disais toi tout à l'heure, Daniel, c'est que pour moi, c'est une situation et un cas qui est ingérable. C'est-à-dire que Ronaldo, tu sais qu'il peut marquer à n'importe quel moment, parce que c'est Ronaldo, qui pèse sur toutes les défenses, même à bientôt 40 ans, et que même quand il est moins bien, et ça Santos se le dit, je sais qu'il peut faire, il peut me faire un truc, aller me chercher un penalty, faire un appel, que les mecs ont l'attention portée sur lui et ça libère des espaces. C'est insoluble.
Même marquer un but quand il touche pas le ballon.
Ouais, ça c'est fou aussi. Tiens, Bruno Fernandez vient de dire, j'ai fêté le but comme si c'était Ronaldo qui l'avait marqué. Voilà, c'est assez mignon. Voilà, on a dit qu'ils s'entendaient pas les deux, finalement ça a l'air d'aller.
Et lui, il fait un doublé, hein, mine de rien.
Ouais, qu'est-ce qui s'est fait tailler? Mais moi le premier, hein, d'ailleurs, hein, je vous l'ai souvent dit dans l'after. Hein.
Mais en même temps, tu le taillais à juste titre parce que t'avais toujours l'impression qu'en équipe nationale,
et même Julien Laurence le disait,
il était toujours timoré, il traînait toujours cette réputation d'être moins bon dans les matchs importants. Bref, d'un garçon un peu timide, pas sûr de lui, pas encore complètement en confiance, affirmé, quoi. Bon ben voilà, il fait un match de patron, il est passé tout près d'un triplé.
C'est ça.
On est là un joueur qui est capable de peut-être dominer son sujet en sélection et peut-être même d'être le patron de cette sélection.
Ouais. Est-ce qu'il s'est pas donné un autre rôle maintenant avec cette nouvelle génération qui arrive, lui qui prend de la bouteille et un peu tu vois la Rabiot chez nous.
Je me demande même. C'est de la supputation, hein, c'est de la fiction, mais encore que. Je me demande aussi si moi le fait que Ronaldo soit pas parti de Manchester United, je sais pas, psychologiquement même inconsciemment, ça l'a pas encore plus libéré. C'est-à-dire que il était l'un des patrons de Manchester United. On en avait parlé avec Kevin Diaz et avec Julien Laurence avant que Ronaldo arrive. C'est-à-dire que c'était un joueur hyper important. Il avait le brassard, etc. Ronaldo est arrivé. Il était très content qu'il vienne à ce moment-là. Hein, il l'avait dit, assumé publiquement. Il l'a redit encore dernièrement. Moi, j'étais fan. Ronaldo était l'une de mes idoles quand j'étais jeune. Est-ce que là, le fait de savoir qu'à United, finalement, il redevient un patron qu'il était, je ne sais pas si ça joue pas aussi psychologiquement.
Je pense que tu as raison. C'est parce que tu as des joueurs comme ça.
Juste un petit message là sur le hashtag RMC Live de Etz qui me dit arrêtez d'appeler Léao le Mbappé portugais. Je précise que c'est pas de moi, c'est de Campos.
Luis Campos,
c'est lui, Campos, quand à l'époque il était à Lille, qui avait dit vous verrez, celui-là c'est le Mbappé portugais.
Il n'a pas vraiment dit ça. Il a dit il a des caractéristiques qui ressemblent un peu à Kylian Mbappé, la vitesse notamment, la percussion. Mais c'est vrai que
un tout petit peu.
Ouais. Oui, un petit peu.
Bon Nico, à tout à l'heure.
Ciao. Minuit, hein. Minuit, une heure. On sera là avec Thibaut hein, pour la
soirée. Ça se passe bien.
Franchement. C'est un vrai kiff.
Bon, on dort. Et moi, je les entends. Tu les entends pas, Gilbert?
On l'a même appelé. Il est rentré en bagnole, Lionel, pour pas qu'il s'endorme.
Donc, ouais, c'est vrai, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, tu t'endors raison, pas, fais pas le con volant.
Ouais, faites gaffe à Lionel quand même.
Oui, justement, on voulait pas qu'il s'endorme.
Non, mais je les écoute, je te promets, je me régale. Ils me font pisser de rire. D'ailleurs, faudrait que tu nettoies ma caisse.
Bravo, il est prêt pour la durantaine aussi.
Mais ils sont très marrants. Ils sont très marrants.
Ils sont la base de voiture aussi.
Et pertinent. Ah, bah, les portugais.
Non, alors ça, bravo, Lionel. Bravo.
Tu le sais, tu le sais.
Non, mais parce que je veux bien qu'on nettoie les baraques, mais les bagnoles, je crois pas, non.
À tout à l'heure, minuit donc.
Merci
Nico. Ciao. Dans un instant, on dit un mot de l'Uruguay et puis on enchaînera avec le Brésil. Ensuite, il y aura l'équipe de France, il y aura le Ghana, il y aura le Cameroun et tout le reste de l'actu du jour, évidemment, jusqu'à minuit dans l'after. À tout de suite sur RMC.